La Balafre, chapitre 7, page 43. Je suis restée plantée, une bonne minute devant le téléphone, incapable de décider quoi que ce soit. Au bout d'un moment, le frigo s'est mis en marche dans la cuisine et j'ai sursauté. Mais qu'est-ce qui me prenait ? Et ce fichu silence qui n'en finissait pas. Et toutes ces choses autour de moi qui semblaient dire « enfin seul ». J'ai foncé sur le téléviseur et j'ai poussé le volume. Sur une chaîne, un type et une jeune femme essayaient de vendre des articles ménagers. Sur une autre, une lionne attaquait un gnou. Deux vieilles connaissances. Est-ce que c'était toujours la même lionne et toujours le même gnou ? Je me rappelais les larmes que j'avais versées, enfant, devant cette scène cruelle. Et les paroles de mon père. « Il n'y a pas que des animaux gentils, tu vois, mais tu n'as rien à craindre. Tant que tu es avec papa et maman, tu n'as rien à craindre, mon garçon. » Et il avait éteint la télé. Cette fois-ci, j'étais seule. Je fixais l'écran comme si quelqu'un m'y obligeait. « Regarde, mais regarde donc, de quoi as-tu peur ?» Le gnou, épuisé, tremblait sur ses pattes frêles mais restait debout. Quelquefois, il relevait la tête et jetait des regards à droite, à gauche, à la recherche d'une aide qui ne viendrait de nulle part. La lionne lui arrachait les lambeaux de chair et attendait qu'il tombe. Je me suis rendu compte que je pleurais presque. Saloperie de bestiole ! Comment est-ce que j'avais pu être assez bête pour me piéger moi-même ? Il était encore temps de rappeler Jérôme. Il n'allait pas partir dans la minute. Rien de plus facile. Il suffisait de dire « Excuse-moi, finalement, j'ai préféré rester ici. Mes parents sont partis et je suis tout seul. Vous pouvez passer me prendre ?» J'ai bondi sur le téléphone et j'ai composé le numéro. Au bout de la 10e sonnerie, j'ai raccroché. Ils étaient déjà partis. C'était un matin d'automne, comme je les aime d'habitude. Un beau froid, disent les gens. Le ciel bleu, juste quelques nuages blancs très hauts à l'air vif qui vous piquent les narines. Un de ces matins où on devrait sauter sur son vélo et aller faire 50 km dans la campagne. Je me suis débarrassée de ma corde ridicule et je suis sortie. La visite de la maison attendrait. J'avais tout le week-end, j'allais marcher une heure ou deux, retrouver mon calme, manger tranquillement et peut-être que l'après-midi, je serai dans de meilleures dispositions. J'ai choisi d'explorer l'autre côté de la nationale, sans doute parce que là-bas, c'était déjà un peu ailleurs et que j'avais très envie d'être ailleurs. Certains chemins en cul-de-sac conduisaient à des fermes, d'autres en pente douce contournaient les collines ou longeaient des vignes. J'allais d'un bon pas et après quelques kilomètres, j'ai commencé à sentir que les mauvaises ondes se dissipaient. Le soleil du matin était comme une caresse. Je croisais ça et là d'autres promeneurs qui me saluaient gaiement. C'était comme quand on a eu mal longtemps et que cela passe. Je savourais le soulagement. Après tout, je pouvais ne pas la visiter du tout, cette maison. J'allais faire de mon mieux pour terminer la journée seule. Je pouvais très bien aller à vélo l'après-midi et voir un film, pourquoi pas. Le lendemain, j'appellerai Jérôme et on passerait le samedi ensemble. Dimanche, mes parents revenaient et voilà, l'affaire en question. Comme aurait dit la mère Goret, où est-elle le problème ? Il devait être midi lorsque je suis rentrée à la Goupille et je commençais à avoir drôlement faim. J'ignore pourquoi je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai fait plus de 20 mètres avant de l'apercevoir. Le chien. Il était assis, au milieu de la route, juste devant chez nous. Parfaitement immobile, les oreilles dressées, il me regardait en face. Je me suis figée. Le hameau était vide comme d'habitude. Oh non, 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 même beaucoup plus vide. C'était comme s'il n'y avait jamais eu âme qui vive dans ce lieu depuis des siècles. Toutes les portes étaient closes. Même chez la mère Goret, les poules avaient déserté la cour. Le soleil éclairait tout cela d'une lumière blanche, comme on en voit sur les photos surexposées. J'ai serré ma main sur le canif dans ma poche et j'ai essayé de l'ouvrir. Le chien n'était pas menaçant, il était là. Et c'est tout, mais il était plus terrible ainsi que dans sa rage de l'autre nuit. Je savais que je n'avais pas le droit de bouger, ne pas faire un pas, ne pas tourner la tête, attendre, tenir debout. Et puis j'ai entendu la petite voix. Boule ! Est-ce que cela venait de l'intérieur de ma tête ? Ou bien vraiment de derrière moi, comme il me semblait. Je me suis retournée. À une dizaine de mètres, une petite fille était assise par terre, au milieu de la route. Elle portait une robe rouge et des sandalettes d'été. Ses cheveux étaient noirs, comme du jais. Elle alignait des cailloux avec cet air rêveur qu'ont parfois les enfants désœuvrés qui se résignent à jouer avec un rien, un morceau de bois ou une feuille morte. Dans sa main libre, elle tenait une modeste poupée de chiffon. Elle devait avoir 4 ans, pas plus. Elle ne me voyait pas. « Boule, viens !» Le chien s'est mis à trottiner dans ma direction. Il a frôlé mes jambes. Puis, il a couru jusqu'à la petite fille. Elle s'est agrippée à son cou et ils ont joué ensemble. Elle cherchait à monter sur son dos et lui s'esquivait. Elle le grondait en riant. Et finalement, il s'est allongé et elle s'est blottie contre son ventre. Je me rappelle avoir senti au bout d'un moment que mes doigts étaient poisseux. J'ai sorti la main de ma poche et je l'ai regardée. Je m'étais coupée au pouce. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais soudain, ils n'ont plus été là. Comment le dire autrement ? Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas disparu dans un nuage de fumée, ils n'ont plus été là, c'est tout. Une poule s'est mise à caqueter dans la cour de la mère Goret, un avion a franchi le mur du son et son bang a résonné longtemps. Je crois aussi que je me suis écartée pour laisser passer une voiture. En rentrant dans notre maison, j'étais très calme. Je suis allée dans la salle de bain pour panser mon doigt, puis dans la cuisine où j'ai mangé le reste du gratin dauphinois de la veille. C'est bon le gratin dauphinois réchauffé, surtout quand on a fait 10 km à pied par un beau froid sec dans la campagne, qu'on a vu le fantôme d'une petite fille et d'un chien, et qu'on mange tranquillement en écoutant les nouvelles du jour à la radio.